Avec nous, François Vier, président du mouvement européen Pas-de-Calais et chroniqueur régulier sur Radio PFM. On parle avec toi de l'actualité de l'Union européenne cette semaine, c'est bien sûr les résultats des élections européennes. Alors, on va commencer par un gros plan sur les résultats français. Comment tu réagis sur ces résultats, François ?
Bon, ils sont connus de tout le monde. Sur 74 eurodéputés que nous envoyons au Parlement, eh bien, il y aura 24 Front National, plus 4 Front de Gauche. Ce qui veut dire qu'il y a 58% de pro-européens parmi les députés envoyés au Parlement et 35% qu'on peut qualifier d'anti-européens, même si on agrège un peu artificiellement, là, le Front National et le Front de Gauche.
Oui, parce que le Front de Gauche, c'est pas vraiment anti-européen, quoi.
Alors, il dit vouloir une autre Europe, mais en changeant beaucoup de choses, et c'est quelquefois un peu irréaliste, au moins c'est mon point de vue.
Donc là, on reparle du vote massif pour le Front National. Qu'est-ce qui explique, selon toi, ce vote massif ?
Je pense d'abord que c'est une raison franco-française. C'est dû au double échec de la droite et de la gauche en termes économiques. En 2002, c'est-à-dire à la fin du gouvernement Jospin, il y avait encore une situation qui était tenable. On était près des 3% de déficit. On avait un chômage qui est fort parce que ça fait 40 ans que c'est dur. Mais la situation était plutôt saine. Or, en 2012, à la fin de l'ère Sarkozy, eh bien, on a une situation qui s'est fortement dégradée. Hein, rappelons-nous en 2007 les propos de François Fillon qui disait « Je gouverne un pays en faillite ». Et depuis, on n'a rien fait et la situation s'est aggravée. Et puis en 2012, eh bien, François Hollande, en arrivant au pouvoir, au lieu d'expliquer que la situation était dramatique et qu'il fallait corriger le tir, faire des réformes, eh bien, il a attendu une hypothétique relance qui viendrait de l'extérieur et qui n'est pas arrivée. Et s'est contenté de traitement social du chômage. Et à nouveau, échec. Donc, double échec des uns et des autres. On ne croit plus en personne et on vote Front National. Alors, on a parlé d'une raison franco-française, hein, les échecs de la droite et de la gauche, mais il y a une raison aussi qui ne tient ni à l'Union européenne et ni à l'euro. Il faut observer qu'au Royaume-Uni, comme au Danemark, comme en Hongrie, il y a une progression des populismes, alors que ces pays sont en dehors de la zone euro. On peut même rappeler qu'en dehors de l'Union européenne, il y a la Suisse avec l'UDC qui est grimpée à 25% des voix, donc... Donc ces populismes sont dus à la crise, sont dus à une crainte vis-à-vis de la mondialisation, sont dus à un mouvement de défiance généralisée vis-à-vis des institutions et qui donc ont peu de choses à voir avec l'Union européenne ou même avec l'euro.
Est-ce que ces résultats, ce n'est pas aussi les conséquences d'une campagne un petit peu bizarre? Tu as parlé à ce micro de non-campagne, et puis aussi sur comment était présenté le débat, hein, pour ou contre l'Europe, une insistance sur l'abstention qu'on attendait forte pour ce scrutin.
Alors, il est clair qu'il y a d'autres responsabilités. Il y a une responsabilité des partis politiques. Hein, moi, je rejoins volontiers le propos de Cohn-Bendit qui disait « Le problème, ce n'est pas les eurosceptiques. Le problème, c'est les pro-européens qui ne défendent pas l'idée européenne. » C'est-à-dire que les partis pro-européens n'ont pas fait véritablement campagne ou l'ont fait très tardivement. Le gouvernement n'a pas lancé de campagne de mobilisation des électeurs pour amener à une participation plus importante dès le lendemain des municipales. Ça aurait pu se faire. Et puis il y a aussi une responsabilité des médias, quand on pense que des paroles et des actes, hein, l'émission de France 2 a invité Marine Le Pen 6 fois. C'est-à-dire que les médias ont fait du suivisme de l'opinion, avaient une vedette à faire valoir dans leurs émissions, et finalement on a servi la soupe au Front National.
Alors ce vote pour le Front National, il va avoir des conséquences au niveau du Parlement européen. On a dit 24 députés européens pour le Front National. Qu'est-ce qui va se passer pour la France au Parlement ?
Ben, pour le Parlement européen, l'Europe se prive de 28 députés pour agir efficacement pour modifier les politiques de l'Union européenne. On sait que les 24 Front National feront de l'opposition, les 4 Front de Gauche ne seront pas actifs, je dirais, ou auront une influence réduite dans les politiques européennes, donc la France accepte de réduire son influence.
Alors François-Vier, avec toi maintenant, on va changer d'échelle, on va parler des résultats, mais cette fois-ci à l'échelle européenne, hein, ce dont on a relativement peu parlé dans les médias français, en tout cas depuis deux jours. Alors comment tu vois les résultats à l'échelle européenne ?
Alors, stabilisation de la baisse de la participation. Alors beaucoup de gens s'en sont félicités, c'est une bien modeste victoire, mais enfin la participation n'est pas descendue une nouvelle fois, elle s'est stabilisée à 43%. Et ce qu'on peut aussi noter, c'est que s'il y a eu une très mauvaise participation dans certains pays, d'autres ont bien voté. Moi je citerai l'exemple de l'Italie, où 60% de la population a participé, a voté, et où Matteo Renzi, qui est le chef de gouvernement social-démocrate et qui est à la fois jeune, très volontaire et qui a engagé des réformes profondes, a récolté 41% des voix, alors que le mouvement 5 étoiles est descendu dans les votes. Donc, certains pays se sont bien comportés. La deuxième leçon, c'est le montée des populismes de droite. Alors, après la France, le cas le plus important, c'est le Royaume-Uni, où l'UKIP, qui est un parti qui veut sortir de l'Europe, le Royaume-Uni a recueilli 27% des voix, ce qui a des conséquences, on en parlera un peu après. Ensuite, il y a la Grèce, où Obdoré, un parti fasciste, a obtenu entre 8 et 10% des voix. Le Danemark, le parti populaire danois, 27%. La Hongrie, le Jobbik, qui est carrément antisémite, 15%. Donc c'est une montée qui est inquiétante. Là encore, ce n'est pas une règle générale, hein, puisque les Pays-Bas ont endigué la montée du parti de Geert Wilders, qui est resté à 12%. Le parti des vrais Finlandais, qui était monté beaucoup plus haut, est resté à 13%. Donc ce n'est pas non plus une règle absolue. Un autre enseignement, c'est la montée de la gauche radicale. En Grèce, le parti Syriza d'Alexis Tsipras est à hauteur de 26-30%, je m'excuse, je n'ai pas le chiffre définitif. En Espagne, le parti Podemos, qui vient du mouvement des indignés, et la gauche plurielle, qui est aussi une gauche radicale, sont en hausse. Au total, le Parti populaire européen et le Parti social-démocrate restent dominants dans le département, bien que tous les deux à la baisse. Les Verts sont à la baisse, les libéraux se maintiennent à peu près avec 70 sièges. Alors concernant les eurosceptiques, il n'est pas très facile de faire un compte exact actuellement parce que il y a toute une série de gens qui sont non inscrits, qui sont des petits partis, qui vont se recaser dans telle ou telle famille politique et donc les statistiques ne peuvent pas être précises. Alors selon que l'on classe tel ou tel parti dans les eurosceptiques, on a entre 19% et 29%, je dirais, d'eurosceptiques au Parlement. Il y en avait moins de 20% auparavant. Donc c'est une hausse. Et c'est une hausse qui est évidemment un signal d'alerte important. Alors les quatre groupes pro-européens réunissent quand même 71% des sièges. Le total des droites, 53%. Le total des gauches, 40%. Donc on a un Parlement qui reste dominé par les partis pro-européens et avec un Parlement qui reste aussi plutôt libéral que social-démocrate.
Alors, ce qui va suivre ensuite, c'est l'élection du président de la Commission.
Alors Jean-Claude Juncker, qui est le candidat du Parti populaire européen, est favori puisque le PPE a un peu plus de sièges que son concurrent direct. Ensuite, ce qui va se passer, ça va être une partie de bras de fer entre les chefs d'État européens et le Parlement européen. Donc les chefs d'État vont se réunir pour analyser le résultat des élections. Ils doivent, au terme des traités, faire une proposition. Et les cinq personnalités qui étaient candidates à la présidence de la Commission, donc qui étaient les chefs de file de chacun des cinq partis qui ont désigné les candidats, toutes ont dit il faut que ce soit l'un d'entre nous qui soit désigné par la Commission européenne. Sauf que nos chefs de gouvernement ont envie de jouer avec ça. Il y a eu des réticences qui ont été montrées par Angela Merkel et par Herman Van Rompuy, qui est le président du Conseil européen. On sait aussi que David Cameron est très réticent sur ce principe, donc va essayer de faire obstacle pour proposer un autre candidat de son choix. Donc on risque d'avoir une partie de bras de fer entre le Conseil européen et le Parlement. Au Conseil européen, d'ailleurs, François Hollande, on peut le signaler, a dit qu'il respecterait le résultat du vote d'hier. Alors ces négociations entre le Conseil européen, le Parlement européen, parce qu'il faudra aussi qu'au sein du Parlement européen il trouve une majorité, risquent de durer quelques semaines. On ne connaîtrait pas tout de suite les résultats. La deuxième conséquence de ce vote, ça risque d'être un rapprochement entre sociaux-démocrates et conservateurs. C'est-à-dire que les majorités vont être un peu plus difficiles à trouver, et donc le PPE, les libéraux et les sociaux-démocrates risquent de faire soit une grande coalition, soit en tout cas se réunir plus souvent sur les votes qui seront soumis au Parlement. Et puis l'inconnu, c'est y aura-t-il un sursaut, je dirais, une réaction à la suite de ces élections. On voit bien qu'il y a un euroscepticisme grandissant, qu'il y a un souhait d'un changement de politique, de plus de clarté aussi dans les modes de décision des institutions européennes. Donc est-ce que nos chefs d'État, puisque c'est d'abord eux qui ont la main, est-ce que nos chefs d'État auront le courage politique de mettre en place des réponses à cette attente populaire ? C'est une nécessité, en tout cas on la ressent vivement en France où le Front National est monté très haut. Et puis une autre conséquence, c'est concernant le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, avec la montée de l'UKIP à ce niveau, s'éloigne encore un petit peu plus de l'Union européenne. David Cameron a promis un référendum sur la sortie de l'UE. Est-ce que cette pression électorale ne va pas amener aussi les sociaux-démocrates anglais à proposer un référendum? Donc le Royaume-Uni a fait un pas, je dirais, vers la sortie de l'Union européenne à l'occasion de ces élections.
François Vier, merci. Je rappelle que tu es président du mouvement européen Pas-de-Calais et chroniqueur hebdomadaire sur Radio PFM pour la chronique Nouvelle d'Europe.